Bonsoir, comment allez-vous? Mais tu peux pas y aller comme ça? Mais t'as pas autre chose? T'as pas un truc, je sais pas, un peu gris ou bleu marine? D'accord, il aimait pas le noir, mais enfin, entre le noir et le rose fluo, il y a une marge. Oh, et toi, tes chaussures de sport pleines de boue, tu vas pas jouer au foot, enfin? Mais si, tout le monde les verra quand tu vas lire le texte. Ah, tu le lis plus? Pourquoi? Me fais pas attention, c'est une vieille bique. Bon, de toute façon, faut y aller, sinon on n'aura pas de place. Qui a dit qu'on pouvait se garer dans le cimetière? Seulement pour la famille et les pompes funèbres. Oh, bah ça, on risque pas de vous prendre pour les pompes funèbres. T'as raison, on est un peu la famille. S'il te plaît, lâche ce téléphone. Elle est pas un peu courte, ta jupe, là? Ah, c'est un short! Non, sérieux, tu vas aller enterrer mon père en short? Oui, ton grand-père, si tu veux. Enfin, c'est un short très très short. Excuse-moi, on dirait que t'es en culotte. On se dit, la fille, elle a oublié sa jupe. C'est ta seule affaire noire? Et ton jean, c'est bien? S'il te plaît, lâche ce téléphone. Réponds maintenant que ça sonne. Quand il fait rien, t'es vissé dessus, et quand il sonne, tu fais rien. Non, on n'est pas encore parti puisqu'on est là, passe-la-moi. Mais oui, on est prêt, sauf que j'ai une fille en culotte, une autre en fluo et un fils en je sais pas quoi. Un parapluie, mais oui, je te le prends, t'inquiète. Mais non, je m'en fous, s'il pleut, je mettrai mon ciré jaune.
Bonjour, je m'appelle Violette et j'ai 7 ans. Je voudrais savoir pourquoi, quand il y a des morts, on s'habille hors noir.
Michel Pastoureau, historien des couleurs, vous avez écrit beaucoup sur les couleurs et vous avez bien entendu édité au Seuil un livre sur le noir. Pourquoi la couleur du deuil, demande Violette?
Oui, tu as raison, on s'habille en noir pour les circonstances tristes et spécialement pour les enterrements ou pour porter le deuil. C'est le noir ou c'est le sombre qui peut remplacer le noir, le bleu marine très foncé, le gris foncé. L'idée, c'est de montrer par le vêtement que l'on est dans un état de chagrin, donc on porte des couleurs tristes et les couleurs sombres passent pour plus tristes que les autres. Et puis, même si on n'a pas beaucoup de chagrin parce qu'on connaît pas la personne, pas très bien la personne qui a disparu, il ne faut pas se montrer dans des couleurs vives, dans des couleurs gaies, montrer qu'on est joyeux quand tout le monde est triste, ce serait une provocation, ce serait indécent. Alors, au fil du temps, cette pratique des vêtements sombres ou des vêtements noirs pour montrer le deuil se met en place lentement. Elle est à peine présente dans l'Antiquité romaine. Elle réapparaît dans le courant du Moyen-Âge, d'abord en Espagne et en Italie, mais seulement pour la noblesse, pour les classes aisées. Puis peu à peu, au début de l'époque moderne, elle descend l'échelle sociale et elle remonte vers l'Europe du Nord. Mais il faut vraiment attendre le 18e siècle, voire le 19e siècle, pour que ce soit une habitude générale. Porter des vêtements de deuil quand on a perdu quelqu'un, et ces vêtements sont devenus le plus souvent noirs ou très sombres.
Et alors, savez-vous pourquoi en Chine, la couleur de l'enterrement et du deuil, c'est le blanc ?
Le port du noir pour montrer le deuil, c'est propre à l'Occident. En effet, dans d'autres parties du monde, en Asie et en Afrique, on porte le deuil en blanc. C'est parce qu'au fond, il y a deux morts dans beaucoup de sociétés. Il y a la mort qui est le contraire de la vie. Et puis il y a la mort qui est le contraire de la naissance, et ça n'est pas la même chose. Dans beaucoup de sociétés, la naissance, c'est lié au blanc. On habillait les bébés en blanc pendant très longtemps. Certaines cultures pensent la mort comme une nouvelle naissance, une renaissance, un passage dans une autre vie. Et alors, pour ce passage, on porte des vêtements blancs pour accompagner le défunt dans son voyage vers cette nouvelle vie. Nous, nous sommes restrictifs. Nous pensons uniquement la mort comme le contraire de la vie. Mais dans beaucoup de parties du monde, on pense la mort aussi comme le contraire de la naissance.
L'historien Michel Pastoureau, vous le savez, a beaucoup écrit sur les couleurs. Je parlais de son livre sur le noir il y a un instant. Et son dernier livre, il a écrit également beaucoup sur les animaux. Et son dernier livre s'appelle Le Corbeau. Il est édité au Seuil. C'est une histoire culturelle du corbeau. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonsoir, je m'appelle Clara, j'ai 10 ans. J'aimerais bien savoir si c'est vrai que les Inuits ont des dizaines de mots différents pour parler de la neige. Merci, au revoir.
Bonsoir Clara. Nous avons proposé ta question à Véronique Antomarquis qui connaît très bien les Inuits. Vous allez me dire si je dis bien, je ne sais pas. Vous êtes historienne, enseignante à l'IUT de Paris, chercheure au CERLOM. Alors a-t-elle raison Clara quand elle dit que les Inuits, on dit les Inuits ?
On dit les Inuits, oui.
Ont des dizaines de mots différents pour parler de la neige.
Mais c'est une question très intéressante que tu poses, Clara. Parce que les Inuits, qui aujourd'hui sont à peu près 170 000, ils vivent dans l'Arctique, c'est-à-dire au nord du cercle polaire, là où il fait quasiment toujours froid. Et ils vivent dans des espaces immenses hein, qui vont de l'Amérique du Nord à la Sibérie, en passant par le Groenland. Et c'est vrai que ce climat, il est caractérisé donc par le froid. Donc nous, quand on voit le froid, on imagine bien sûr la blancheur de la neige et de la banquise qui est la mer gelée. Notre vision à nous des paysages arctiques, elle s'appuie sur cette blancheur-là. Dans la réalité, au moment de la fin du mois de juin, la neige, elle fond et il y a un été. Tout de même, dans l'Arctique. Mais ta question, elle est extrêmement intéressante, Clara, parce qu'elle rejoint, en fait, celle de la langue. C'est-à-dire l'idée qu'une langue reflète la culture d'un peuple, mais aussi que la culture d'un peuple a une influence sur la langue. Il y a une sorte d'interaction. Et c'est ce que l'on appelle la théorie relativiste. Dans les années 50, pour répondre à ta question sur le lexique foisonnant de la neige, un linguiste qui s'appelait Worf s'est appuyé sur cette idée du lexique foisonnant de la neige chez les Inuits, évalué entre 50 et 100 mots, wow, pour appuyer cette théorie relativiste. Sauf que, dans les années 80, un autre linguiste britannique et qui a enseigné aux États-Unis, qui s'appelle Pudlum, lui, il a dit que tout cela était bien exagéré. Et donc Pudlum, il dit que lui, il constate qu'il y a trois mots, en fait, pour dire la neige.
Ça, c'est pas beaucoup, pour le coup.
Bah, apouti, la neige au sol, rani, la neige qui tombe, et puis aniou, la neige fondue, dont on se servait d'ailleurs pour boire de l'eau. Et donc, il a montré qu'il y avait une exagération chez les chercheurs. Mais à l'aube des années 2000, un autre chercheur québécois, qui s'appelle Doré, et qui est spécialiste, lui, de la langue et de la culture inuite, a montré qu'il y avait une dizaine de termes avec des radicaux indépendants, parce que la langue inuite, c'est une langue agglutinante qui fonctionne un petit peu comme un puzzle, et on ajoute des mots, des morphèmes les uns aux autres. Et donc, ça veut dire qu'une dizaine de radicaux, c'est plus que dans les langues européennes comme le français ou l'anglais.
Oui, c'est pas le même mot qu'on décline, évidemment.
Voilà. Mais en même temps, ta question, elle est intéressante, parce qu'elle montre, au fond, que les humains observent leur environnement avec attention pour désigner des phénomènes de la nature. Mais on pourrait dire que dans les régions de montagne, les habitants, eux aussi, utilisent des termes différents pour évoquer les différents aspects de la neige.
C'est amusant parce que justement, il se met à neiger aujourd'hui à la montagne. Merci Véronique Antomarquis.
Suis la flèche, dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de voix. Suis la flèche, dis-moi si t'aperçois les chasseurs d'illusions sur les toits. Dans le ciel, comme un ouragan, l'air prend la couleur d'un voile sanglant. En sommeil, depuis 10 000 ans, on entend gronder d'anciens volcans. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman. Heureux dans l'instant, dis-moi. Suis la flèche, dis-moi si tu sens la cruelle odeur des innocents. Suis la flèche, dis-moi si t'entends les sœurs fatales et leur boniment. Dis-moi dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman, heureux dans l'instant. Suis la flèche, dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de croix. Suis la flèche, dis-moi si t'aperçois. Là-bas, au loin, les jongleurs sans loi. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman, heureux dans l'instant.
C'était la toute dernière chanson d'Hubert Félix Thiéfen, la fin du roman.
Les petits bateaux sur France Inter.
Nous sommes le 31 octobre et c'est ce soir que les enfants se déguisent en sorcières, en squelettes, en fantômes pour aller sonner aux portes de leurs voisins.
Bonjour, je m'appelle Lily, j'ai 9 ans, j'habite en Ardèche à Beauvel. Et je voulais savoir pourquoi les fantômes sont représentés avec des chaînes et un boulet. Merci, au revoir.
Bonsoir Lily. Écoute, nous ne savions pas très bien à qui proposer cette belle question et nous avons trouvé un historien, Didier Le Fur. Quelle drôle de question.
Oui, mais elle est jolie parce qu'elle provoque tout un imaginaire, à la fois dans l'idée du fantôme, dans l'idée de la maison hantée, et puis forcément, le rapport avec la vie, la mort, et tous les mystères qui peuvent entourer tout cela. En fait, c'est une invention, parce que c'est une invention, hein, les fantômes avec les boulets, tels qu'on les voit au cinéma et dans les bandes dessinées et autres aujourd'hui. Parce que longtemps, le fantôme ou le revenant avait l'apparence de celui ou de celle qui était mort, exactement. Et donc, dans les vêtements, voire quelquefois dans les blessures qui avaient causé la mort. Le 19e siècle a adoré ces côtés vie, mort, cette espèce de réflexion. Les scientifiques se sont mis aussi à vouloir étudier les phénomènes paranormaux. On a voulu analyser le spiritisme, exactement, c'est très à la mode. Et forcément, ces revenants, ce dialogue entre la vie et la mort, possible, ou en tout cas imaginé, ou souhaité, eh bien, va créer aussi tout un autre imaginaire, c'est un imaginaire de littérature, où la maison, du coup, va devenir le lieu centrale de toutes les choses un peu magiques ou étranges qui pourraient se jouer dans un espace. Et peu à peu, on va apporter des éléments, la chauve-souris, l'étoile d'araignée. Il faut absolument que la maison hantée soit abandonnée. Souvent, la toiture est cassée. C'est une sorte de schéma esthétique qui va se reproduire de plus en plus, à la fois dans la peinture et dans la littérature. Et puis, au début du XXe siècle, on va reprendre cette idée, mais au cinéma. Alors on va faire des premiers films d'horreur, des premiers films muets, et puis en 1921, on va faire de ces films d'horreur aussi des films burlesques, de la comédie. Et en 1921, donc, il y a un film avec Buster Keaton qui raconte l'histoire d'un agent de change qui est témoin d'un cambriolage, qui court après les voleurs, qui d'un seul coup se réfugie dans une maison hantée, et qui s'aperçoit très vite que finalement cette maison hantée n'est pas hantée, mais elle est le refuge de ces cambrioleurs qu'il poursuivait. Et donc ces cambrioleurs, pour ne pas être dérangés, se déguisaient en squelettes et donc en fantômes, avec un drap et des chaînes et des boulets pour faire peur à tous les visiteurs susceptibles de rentrer dans cette maison pour qu'ils puissent rester tranquilles et continuer leur larcin. Finalement, le film s'arrête parce que Buster Keaton va lui-même comprendre l'astuce et se déguiser en fantôme avec un drap et puis des chaînes. Et tout est bien qui finit bien, Buster Keaton est le héros. Et cette image-là, eh bien, va être reprise après dans les films de Walt Disney et de Mickey. À partir des dessins animés de Walt Disney de la fin des années 20, puis après de tout le genre cinématographique qui va se développer dans les années 30 et 40, mais là, en couleur, mais là, avec des effets spéciaux et avec forcément aussi la voix, eh bien, le fantôme gentil va se développer avec ce fameux drap blanc et chaîne et boulet.
L'historien Didier Le Fur a écrit beaucoup de biographies qui ont été récompensées ou acclamées par la critique. Son dernier livre est édité chez Passé Composé. Il nous dit que longtemps, Dieu a gouverné la vie des hommes. Puis certains, de Copernic à Condorcet en passant par Voltaire, ont remis en cause ce pouvoir. On cherchera à en faire une histoire sans Dieu. Ce fut celle du progrès humain, puis de la civilisation. Le dernier livre de Didier Le Fur s'appelle « Et ils mirent Dieu à la retraite ». Les petits bateaux, nous avons un numéro de téléphone, le 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 11 ans, et j'aimerais bien savoir comment on recycle le papier toilette pour fabriquer le papier toilette recyclé. Merci.
Luc Bramy, vous êtes directeur général de Global Hygiène, qui fabrique, entre autres, du papier toilette. J'ai pas compris, en fait, si la question, Lucas, disait « Est-ce qu'on réutilise le papier toilette ?» Ce qui me paraît un peu impossible, parce qu'il va dans l'eau et les égouts. « Ou est-ce que le papier toilette est fabriqué avec du papier recyclé ?» C'est vous le spécialiste, je sais pas comment vous le comprenez.
En effet, on ne recycle pas du papier toilette, puisque vous savez sa destination, et qu'il n'y a pas, en fait, de récupération sur les eaux sales des villes. Donc, et c'est pas la logique. On utilise des vieux papiers, donc ceux qui sont mis dans les poubelles de recyclage des vieux papiers, pour faire tant du papier de toilette que du papier d'écriture ou des cartons. Et en fait, c'est ce papier-là qui est utilisé. Donc, comment on fait? En fait, on met tout ça à nouveau dans de l'eau, qu'on touille, et puis petit à petit, on retrouve la pâte, l'équivalent de la pâte qu'on a quand on met en fait de la pâte à papier.
Mais Luc Bramy, vous mettez donc ce papier usé dans l'eau et vous touillez. Vous le mettez combien de temps? Est-ce que vous rajoutez autre chose à l'eau?
Alors oui, il y a un traitement qui est assez important. Il y a énormément de mixage qui est fait. On a un certain nombre de machines qui permettent de revenir à ce qu'on appelle la fibre du papier, et qui permet ensuite de reprendre le process qu'on utilise quand on a de la fibre qu'on appelle pure pâte neuve.
D'accord. Donc, il y a toute une partie du procédé qui est le même que si vous partez d'un arbre, par
exemple. Exactement.
Mais avant, il faut enlever la couleur, parce que le papier toilette, en général, il est blanc ou clair, en tout cas.
Exact. Eh ben, en effet, c'est du désancrage. Alors, c'est une partie du process qui est assez difficile, et c'est aussi une partie qui se justifie d'autant moins que c'est juste pour être blanc. Alors que finalement, il vaudrait mieux accepter qu'un papier soit de la couleur d'un vieux papier.
Pourquoi
C'est-à-dire
pas
un peu gris, un peu marron, ça serait logique. Et c'est vrai qu'en France, on est, de ce point de vue-là, plutôt réticent à avoir autre chose que du blanc. En fait, on tient à rester quand même avec un papier toilette blanc.
C'est fou, parce que ça n'a aucune importance, en plus pour sa durée de vie.
On est d'accord. Le plus important dans un papier toilette, c'est clairement la douceur.
Stéphane Combe, qui réalise l'émission, me dit que les copies du bac termineraient en papier toilette. Est-ce que c'est psychologique pour les élèves qui ont passé leur bac, ou est-ce que c'est vrai?
Alors, ça peut être vrai. Quand on va sur les sites qui font du recyclage de papier, ça peut être vrai. On peut avoir, en effet, toutes les feuilles maladies de la sécu. On peut avoir... Enfin, on a toute la vie des gens. Tout ce qui est un écrit peut passer dans ce process. On a aussi des papiers qui sont un peu moins propres que ça. On a le papier magazine, on a les papiers de la publicité. On a toute la vie des gens qui passent par les vieux papiers.
Le papier glacé? Vous prenez le papier glacé?
On peut prendre le papier glacé également. Bon. On prend aussi beaucoup les tétrapacks. Alors, c'est du carton, mais la difficulté, c'est en fait le carton avec une couche, une pellicule qui permet de le rendre hermétique à l'intérieur. C'est en fait tous les cartons, tous les papiers peuvent être utilisés. Il faut juste avoir un niveau de qualité sur ces papiers qui soit suffisant pour arriver à retrouver des fibres dedans.
Luc Bramy, qu'est-ce qui vous coûte le plus cher ou le moins cher? Le papier récupéré ou l'arbre pour fabriquer du papier neuf absorbant?
En fait, si vous voulez, c'est deux ressources qui ont des prix très différents, parce que c'est pas du tout la même logique pour les obtenir. De la pâte à papier vierge, C'est quelque chose qui suppose de couper un arbre et puis il y a tout un process industriel qui vient derrière. En revanche, le vieux papier, c'est le réunir, faire un process de désancrage et ce genre de choses. Grosso modo, faire un papier recyclé, c'est à peu près deux fois la quantité d'énergie nécessaire pour faire la même chose en pure pâte.
Alors lequel est le plus écologique ?
Grosso modo, je pense qu'il faut utiliser les vieux papiers, il faut les recycler tant qu'on peut le faire, ça c'est une évidence. Ça préserve la ressource bois. J'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux le mettre dans les cartons parce que ça offre une utilisation un peu plus longue. Et ça n'est pas utilisé qu'une fois.
Les explications de Luc Brémy sont intéressantes et elles nous font comprendre pourquoi il faut bien trier ses papiers. Sur le site des Petits Bateaux, vous trouverez les références d'un film que nous a conseillé Luc Brémy sur la fabrication du papier. C'était les Pretenders sur France Inter où vous écoutez les Petits Bateaux. Elisabeth Brami vient d'écrire « J'aime pas qu'on meure » et alors édité chez Pocket Jeunesse.
Bonjour, je m'appelle Nino, j'ai 6 ans et je voudrais savoir à quoi ça sert vivre. Merci, au revoir.
Bonsoir Nino. Elisabeth Brami, vous êtes psychologue, clinicienne. À quoi ça sert vivre, demande Nino.
C'est une question tellement extraordinaire que je pense ne l'avoir jamais entendue de la part d'un enfant. Par contre, quand j'étais étudiante ou psychologue, etc., c'était une question que j'ai rencontrée, surtout auprès de Françoise Dolto, qui était une psychanalyste, qui expliquait finalement que, même si vivre, ça ne sert à rien, il y a sans doute quelque chose de bien avec lequel on est d'accord pour être venu au monde. Il y a tout un mystère. On ne sait pas très bien pourquoi on est qui on est et pourquoi on est venu au monde. Vivre, c'est éprouver des émotions, des sentiments, avoir un corps qui fonctionne, avoir des plaisirs, des déplaisirs, des tristesses, etc. C'est souvent très embêtant et c'est souvent très fatigant. C'est d'autres fois très jouissif, très agréable. Mais ce que Dolto disait, c'est que on peut comprendre des choses sur ce que c'est que vivre lorsqu'on voit, par exemple, un bébé ou un enfant qui veut dévivre. Elle avait inventé le mot dévivre. Elle disait pas mourir, elle disait dévivre. Comme un enfant qui aimerait retourner dans le ventre de sa mère, qui dirait « Ah non, mais ça, je me suis gouré, franchement, non, c'est pas pour moi ce monde-là, c'est un monde pourri, il me plaît pas du tout. » Que faire pour retrouver quelque chose de bien demi-tour? Ben, le demi-tour n'existe pas, enfin, à moins qu'on le décide, et là, ça s'appelle le suicide, et heureusement, tout le monde ne choisit pas cette solution. Mais vivre, c'est une mission pour laquelle on a été choisi, on ne sait pas par qui a sa dose de mystère totale. Suivant les croyances, on vous dira telle ou telle chose, et les religions, mais hors toute religion et toute croyance, on n'en sait rien, voilà, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est que, Nino, vivre, tu dois savoir ce que c'est, parce qu'autrement, tu poserais pas la question. Maintenant, l'inquiétant, c'est à quoi ça sert? Eh ben, ça sert à rien. Voilà. Et tu n'es pas là pour servir à qui que ce soit, ni à quelque chose. Tu es là pour profiter d'un cadeau dont on ne sait rien, que personne ne t'a vraiment donné, et faire le mieux possible avec ça.
Elisabeth Bramy vient d'évoquer Françoise Dolto. Elle a écrit avec Patrick Delaroche « L'éducation selon Dolto, ce qu'elle a vraiment dit pour aider les parents » et c'est édité en format poche chez Espace Libre. En ce soir d'Halloween, il faut bien sûr que je vous parle du grand livre de la sorcellerie, des sciences occultes et de la magie, écrit par des historiens et des sociologues que vient d'éditer Flammarion. Alors commençons par les qualités de cet ouvrage et soyons terre à terre avant de nous envoler. Son prix, 35 €, c'est peu au regard du poids, du volume et de la foule d'informations et d'illustrations que contient ce livre. Même si vous êtes le plus cartésien des humains, il est impossible que vous ne trouviez pas un truc qui vous intéresse là-dedans. Ses défauts sont ceux de ses qualités. Rien ne peut être vraiment approfondi tant il y a de choses. C'est une traduction, enfin, de l'anglais, donc soyons indulgents avec certaines tournures de phrases, disons, déroutantes. Alors, en vrac, dans ce livre, vous rencontrerez Isaac Newton, qui pratiquait l'alchimie, Anastase Kircher, qui n'est pas un professeur de Poudlard, mais un des derniers savants de la Renaissance, reconnu pour ses travaux sur l'égyptologie, les mathématiques, la médecine, l'astrologie et j'en passe. Il a dit que le monde était lié par des nœuds secrets. Et aussi Shakespeare, les Templiers, Alice Keitler, dont le nom ne vous dit peut-être rien. Cette Irlandaise, jugée pour sorcellerie en 1324, a été mariée 4 fois. Elle s'était enrichie en reprenant les entreprises de ses époux. Comme quoi, il y avait bien des femmes chefs d'entreprise très performantes à l'époque. Vous croiserez également des plantes et des pierres qui nous font du bien. Vous irez en Finlande, le pays des chamans, qui survécurent au christianisme jusqu'au XIXe siècle, où des religieux leur confisquèrent leurs tambours sacrés. Podcastez mes amis ou réécoutez ces petits bateaux par franceinter.fr. Mathias Alléon, Marjorie Devoucoux, Stéphane Combe, Noël Bréham, du plus jeune à la moins jeune. Nous espérons bien vous retrouver dimanche prochain à 19h30. Après le flash de 20h, vous retrouverez Jérôme Garcin avec un masque et la plume consacré ce soir au livre.